Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Et lundi, fait suffisamment rare pour être mentionné, le Premier ministre en personne est venu présenter un projet de loi devant l'Assemblée nationale. Manuel Valls s'est en effet présenté devant les députés pour obtenir le projet de loi relatif au renseignement qui fait débat depuis sa première mouture, présenté devant le Conseil des ministres le 19 mars dernier. Dans ce texte, il est rappelé que la France est la seule démocratie occidentale à ne pas disposer de loi encadrant les activités de renseignement, ce qui, je cite, laisse de ce fait les services de renseignement dans une incertitude juridique et crée les conditions d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, diantre, fin de citation. Que contient alors ce projet de loi sur le renseignement, si désiré par l'exécutif, mais qui fait tant réagir l'opinion publique, et qui devrait être adopté dans un consensus très relatif, pour ne pas dire autrement, à l'Assemblée. Beaucoup de choses, et c'est ce côté loi à tiroir qui est reproché au gouvernement, entre la surveillance accrue de terroristes potentiels, et puis une intrusion massive dans la vie des gens, dans la vie privée, par de nouveaux biais technologiques, difficile de discerner ce que cette loi permettra aux services de renseignement de faire vraiment. La prévention est-elle donc dans ce cadre-là, et le cadre de ce projet liberticide, et par ailleurs les critiques pleuvent aussi du côté des acteurs du numérique et sept hébergeurs de données informatiques français, dont les deux principaux, OVH et Gandhi, ont affirmé mercredi 9 avril que ce projet de loi sur le renseignement les poussera à l'exil pour ne pas perdre leurs clients. Alors une sécurité accrue pourrait-elle dans ce cas précis nuire à notre économie, nous qui vantons tant les mérites du numérique aujourd'hui pour justement relancer l'économie, et soumis à un débat en procédure accélérée jusqu'à demain jeudi, ce projet de loi est-il trop sensible pour être voté dans l'urgence? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes ce matin en compagnie de Valérie Peugeot, bonjour.
Bonjour.
Vice-présidente du Conseil national du numérique depuis 2013, vous présidez, vous êtes à la tête de l'association VECAM.
Oui, c'est une association qui fête ses 20 ans cette année et qui est une association de ce qu'on appelle l'Internet citoyen, qui milite depuis 20 ans autour des enjeux de société liés au numérique.
Vous êtes aussi chercheuse, pour être tout complet, à Orange Labs, mais vous ne parlez pas ce matin à ce titre-là, bien évidemment. Avec vous, à vos côtés, François-Bernard Huyghe, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'information, de la stratégie. Il est directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous avez créé l'Observatoire géostratégique de l'information en ligne. On vous a lu, bien sûr, attentivement dans le Figaro d'hier ou d'avant-hier, récemment. Et puis avec nous, pour essayer que je ne dise pas trop de bêtises, il va surveiller, c'est l'homme de l'art, c'est à la fois un collègue, un éminent collègue, Antoine Garapon, confrère, bonjour.
Bonjour.
Juriste français, vous vous occupez le jeudi d'Esprit de Justice, hein, tous les jeudis de 15h à 16h. Et puis, alors vous avez vu, comme on ne fait jamais rien sérieusement, hein, quand même dans les matins, nous sommes avec... La fée-clochette, oula, ça y est.
Elle est un peu rouillée, la pauvre.
Mais non, mais ça y est, elle va reprendre du service. Louison, qui décidera au fur et à mesure de ces matins, comme nous aimons le faire, pour commenter à sa façon l'émission du jour. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pourrez suivre tous les dessins de Louison sur le bloc matin Louison Twitter sur le site. Voilà, ce sera en live sur Twitter, hein, le fil Twitter, et puis bien sûr aussi sur le site de franceculture.fr. Une toute première question tout de même. De Huron, tiens, on va Antoine Garapon. La France n'est donc toujours pas dotée d'une loi encadrant les activités de renseignement, et c'est, paraît-il, même la seule démocratie ou une des seules à ne pas disposer d'une telle loi. Comment on alors, explique cette absence de législation et est-ce que c'est bien vrai?
Alors oui, c'est exact qu'on n'avait pas de loi donc encadrant, légalisant et intégrant dans l'appareil administratif de l'État les services secrets. Et d'ailleurs, c'est une des nouveautés et c'est un point positif de cette loi immense, très importante, avec beaucoup de ramifications. Le fait est que pour la première fois, on a une définition des missions de services de renseignements de l'État. Ils apparaissent au grand jour, ou du moins ils apparaissent au jour législatif. Et en même temps, est signalée la nécessité de respecter les libertés publiques. On peut regretter qu'il n'y ait pas de mention des données personnelles, mais ce qui est certain, et en même temps qu'on annonce qu'on les légalise, en même temps est instauré un contrôle. On pourra revenir sur ce contrôle et ses insuffisances. Mais oui, il est exact que nous n'avions pas jusqu'ici de loi légalisant, encadrant, nommant ces services qui n'ont même pas d'existence budgétaire.
Voilà, mais ils ont quand même une existence, ces services de renseignement.
Il y a quand même une loi qui date de 91, on a quand même une loi qui date de 91, qui certes est complètement obsolète. On est tout à fait d'accord là-dessus et on ne peut que se réjouir d'un rafraîchissement du cadre légal. Pour autant, c'est vrai que c'est assez surprenant et je trouve ça assez bizarre pour une démocratie comme la nôtre d'avoir pour ambition de légaliser des pratiques illégales. On est quand même dans une situation assez paradoxale où ces pratiques illégales n'ont pas été sanctionnées dans le passé. Et aujourd'hui, on les légalise. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, avec la nouvelle loi, on va à nouveau avoir des pratiques illégales qui vont émerger, puisqu'il n'y a toujours pas de sanctions dans la loi pour des agents qui dépasseraient, qui outrepasseraient leurs prérogatives. Et ce faisant, dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans, on les relégalisera. Là, il y a un vrai questionnement.
Vous voulez dire quoi? Qu'au fond, avec la voiture, on a aussi inventé l'accident de voiture. Avec une loi sur le renseignement ou sur l'illégalité, on invente d'autres illégalités?
Aujourd'hui, par définition, une loi permet de définir ce qui est hors ou dans le cadre, hein, ce qui est vraiment sa vertu première. Toute la question, c'est de savoir si les illégalités ne sont pas sanctionnées, qu'est-ce qui va se passer si dans 5, 10 ou 15 ans, on a d'autres pratiques illégales qui émergent. Et on pourra en reparler à propos des sanctions et des contrôles.
Encore sur cette question, François-Bernard Huyghe.
Oui, il n'y a rien de choquant en soi dans l'idée qu'il existe des services de renseignement qui soient encadrés par la loi. Moi, je serais peut-être moins puriste. Ce qui me gêne dans la loi, c'est pas le fait que nos gentils espions puissent poser des micros ou des caméras, ce qu'ils auraient fait de toute façon, si, et c'est là qu'est la nuance, c'est parfaitement ciblé sur des gens réellement dangereux. Et le problème n'est pas, à mon avis, qu'on ait plus ou moins de mallettes à la James Bond pour surveiller des gens précis. Ce serait plutôt qu'on ait les budgets pour avoir le personnel et surtout les bons analystes, mais je pense qu'on reviendra là-dessus.
Alors, si on n'a pas de loi qui encadre tout de même encore exactement les activités de renseignement, on a des institutions et des instances qui existent tout de même pour contrôler, je pense à la CNIL, par exemple.
Et la CNCIS qui marche bien.
Donc s'il y a des instances qui existent déjà, faut-il rajouter une loi ?
Ces instances, elles contrôlent les interceptions de sécurité. Donc, c'était une mission qui était très spécifique concernant les interceptions administratives de sécurité. Elles ne parlaient pas de l'activité. Et ce qu'on a appris à cette occasion, c'est qu'il y avait... Alors, je ne dirais pas des pratiques illégales, c'est des pratiques allégales. Ce sont des services secrets. Et par définition, les services secrets sont non pas en dehors de la légalité, mais sont en dehors des institutions. Donc, la grande avancée de cette loi, effectivement, c'est de préciser et en même temps de les nommer, d'instaurer un contrôle.
Je suis peut-être un peu naïf, François-Bernard Huyghe. Le renseignement est après tout un métier de l'ombre.
Oui, bon, on se dit que c'est un métier de seigneur.
Il doit rester dans l'ombre.
Il doit rester dans l'ombre. Mais je crois que, attendez, nous sommes peut-être un peu en train d'obscurcir les choses en pensant tout ce temps James Bond, service secret.
Comment vous le savez que je pense à James Bond?
Le renseignement et le service secret sont d'abord deux choses différentes. Une grande partie du travail de nos services se fait sur de l'information ouverte. Et le problème est de savoir quelles sont les données et... On reviendra certainement là-dessus, surtout les métadonnées auxquelles vont avoir accès les services administratifs sans contrôle préalable du juge.
Oui, Valérie Peugeot.
Oui, tout à fait. En fait, vous parliez de la CNCIS, donc qui va être remplacée par une nouvelle instance, la CNCTR, Commission nationale de contrôle des technologies de renseignement. Ce qui en soi se justifie par ce que vient d'expliquer Antoine Caparon. Il n'y a pas de problème là-dessus, effectivement. Le problème, c'est de quels moyens va disposer cette commission. Et quand je dis moyens, c'est pas seulement les moyens techniques et les moyens humains qui doivent être à la hauteur de l'ampleur des tâches qui lui sont affectées, mais ce sont aussi les moyens juridiques d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, le système de circulation du contrôle est une régression par rapport au système actuel de la CNCIS. Et c'est là où il y a un problème qui, à mon avis, mérite d'être examiné plus précisément.
Alors, bien sûr que nous irons, notamment dans les atours de cette loi, mais encore tout de même pour comprendre le contexte. Le contexte, il est quoi ? Il est que cette loi était prévue avant les attentats du 11 janvier, mais que les attentats du 11 janvier, enfin du 7 janvier et du 8 janvier, les attentats contre nos amis, ceux de Louison entre autres, Charlie Hebdo et puis aussi de Hyper Cacher, ont accéléré la prise de décision
l'ont
de cette
accéléré
loi.
Légitimé, puisque par exemple, il est amusant de voir un ministre dire c'est au nom de l'esprit du 11 janvier, donc la grande mobilisation nationale, que nous allons vous surveiller. Ça manque pas d'humour.
Antoine Garapon.
Oui, c'est ça. C'est un travail qui était de longue haleine. Je pense au livre blanc sur la défense, à la loi de programmation militaire. La difficulté en France, c'est que les services secrets ont été sous la 4e République et aussi un peu sous la 5e, associés au scandale. Et on a beaucoup de mal à légiférer de manière sereine, à froid en quelque sorte, en dehors de l'affaire de Rainbow Warrior ou d'autres, ou d'autres affaires qui ont fait grand bruit.
Voilà. Et puis il y a une affaire qui a fait grand bruit encore tout récemment, la fameuse attaque de TV5 Monde, dont Bernard Cazeneuve a parlé, qui a mobilisé les
choses.
Oui, mais alors justement, c'est autre chose, mais est-ce que pourquoi dans cette loi on n'arrive pas à y voir clair et qu'on pense qu'elle sera liberticide parce qu'elle couvre un champ tellement vaste qui peut aller effectivement du terrorisme au terrorisme numérique et à l'écoute de la vie privée des gens. Au fond, son point de départ, il est quoi à cette loi et pourquoi est-ce qu'on s'en méfie autant ?
Alors, il y a beaucoup
François Bernard Huyghe.
Il y a beaucoup de choses dans cette loi. Il y a un effet de confusion, donc je ne sais pas s'il est délibéré. Il y a d'une part ce qu'on
certains disent que oui, que les députés n'auront jamais le temps de la lire et qu'il faut la voter en urgence.
Et de la comprendre.
Il y a des choses assez techniques sur les fameuses boîtes noires, etc. Et on peut peut-être regretter que tout ça se fasse au pas de course, avec beaucoup de pression. Enfin, avec même il y a des éléments de langage qui circulent qu'on entend chez les interlocuteurs socialistes qui vous traitent quasiment de populiste parano, si vous émettez la moindre critique. Moi, j'ai quasiment été traité de lepéniste sur une télévision pour mes critiques. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ce problème des services, j'insiste, de renseignement, des pratiques qui existent, qu'il faut légaliser, régulariser, etc. Bon. Ça, c'est une chose. D'autre part, on a un gros problème en France qui traîne depuis les écoutes de l'Élysée. C'est celui de ce qu'on a appelé primitivement les écoutes administratives ou préventives. C'est-à-dire, mais c'était à l'époque du téléphone filaire, vous soupçonnez un bonhomme de préparer un attentat ou d'être un espion économique. Vous n'avez pas un juge d'instruction qui l'a inculpé pour quelque chose de précis. Qu'est-ce que vous faites ? Au moment des écoutes de l'Élysée, on faisait ce qu'on voulait avec les excès que ça a donné. J'ai moi-même été écouté pendant les écoutes de l'Élysée, non pas comme personne privée, mais en tant que copain de Jean Edernalier et cousin d'un journaliste qui était sur la liste. Après, on a une loi dont j'ai un petit trou de mémoire, c'est 94 ou quelque chose comme ça, qui a créé la CNCIS. Mais il faut bien voir qu'entre-temps, il y a une énorme évolution technique. Lorsque nous communiquons du contenu, premièrement. Alors, on le fait par les vieux téléphones filaires, mais de moins en moins, mais nous le faisons par des téléphones portables, et souvent nous en avons plusieurs, et notre contenu, il passe de plus en plus par Internet, par le Voice over Internet Protocol, etc. Donc il y a un premier problème qui est les contenus, et ces contenus qui se diversifient. On avait fait un travail pour le Sénat là-dessus, et je me rappelle, j'avais dit que si on voulait m'écouter moi, ce qu'on fait peut-être d'ailleurs depuis l'article du Figaro... il aurait fallu 14 mandats d'un juge entre mes téléphones de province de Paris, de l'Iris, portable, celui de ma femme, etc. Donc là, il y a un problème technique. Et puis il y a un autre problème qui vient derrière, celui du contenu. Le contenu, ça suppose un quelqu'un qui est comme vous avec un casque et qui un jour ou l'autre dépense le temps qui lui est payé par son salaire par l'État à écouter des conversations. Vous terminez toujours par ce goulet d'étranglement. Et à côté de ça, il y a le problème des métadonnées. Les données de connexion, le contenu des FADET, etc. Qui a appelé qui, quand, d'où, à où, de quel endroit géographique à tel endroit géographique, avec quelle fréquence, etc. Et à partir de là, si vous faites mouliner ça par un ordinateur, vous pouvez avoir énormément d'éléments de déduction et également beaucoup d'éléments de prédiction ou d'anticipation des comportements.
Ah, ça, c'est le fameux cas de Minority Report.
Alors, c'est exactement ça.
On est en train de créer une loi qui va ouais, prévoir le mauvais coup.
Il y a un feuilleton sur TF1 qui est un peu sur ce thème-là, Person of Interest. Effectivement, c'est l'idée. Si vous moulinez suffisamment de big data sur les gens...
Avec des algorithmes, donc.
Avec des algorithmes. Vous avez des fréquences qui vous disent que vous, si vous... Ouais. Vous avez tel type de voiture, vous passez tel type de vacances et vous avez tel type de tondeuse, vous avez telles opinions politiques. D'accord. Enfin, mais c'est ça.
Mais enfin, si je suis dans la rue, j'ai mon téléphone portable, j'appelle Brice Couturier, je lui dis demain on va faire une émission sur le djihad et les risques de terrorisme contre Barack Obama et l'éventuel assassinat de Michelle Obama. Là, je suis coffré immédiatement parce que si l'algorithme repère assassinat Obama djihad, je suis cuit.
Alors ça, c'est une vieille blague, enfin une vieille histoire. Oui, effectivement. Alors,
et Brice aussi d'ailleurs. Ce qui pourrait m'arranger.
Oui. Rappelez-vous, dans les années 90, il y avait le projet Echelon, et le monde entier, bien avant le 11 septembre, donc, avait découvert que la National Security Agency, No Such Agency, utilisait 220 satellites pour intercepter des téléx, les premiers courriels, etc. Et c'était plus pour intercepter les vilains espions soviétiques. Hein. Dans les années 90, c'était visiblement pour faire de l'espionnage économique. À l'époque, il y a eu un projet qui s'appelait le Jam Echelon Day, et qui consistait a demandé à tous les internautes d'envoyer le même jour des courriels bourrés de mots parlant de bombes, d'attentats, de révolutions, de complots. Je l'ai fait comme des milliers de gens. Évidemment, ça n'a pas fait sauter la grosse machine.
Valérie Peugeot.
Oui, vous parliez des différents problèmes soulevés par cette loi. Ils sont nombreux, on n'aura pas le temps de tous les examiner. On pourrait parler de l'extension du domaine de la loi. Aujourd'hui, il y a 6 grands domaines qui sont définis de façon très très vague, très vaste. Un autre problème qui est celui du contrôle qu'on a évoqué rapidement, le fait qu'il existe une procédure d'urgence qui, pendant 48 heures, permet aux services d'intervenir sans aucun contrôle. Et puis ce fameux problème des boîtes noires qui vient d'être évoqué, qui est probablement celui qui soulève le plus de polémiques, car c'est le pas vers ce qu'on appelle la surveillance de masse, quoi qu'en dise le gouvernement. C'est vraiment le cœur de la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on met en place, et là on est très inspiré de tout ce qui se fait dans le monde économique autour des big data et des algorithmes, on sent bien une culture économique qui percole le gouvernement, mais pas forcément pour le meilleur, avec une forme de fascination pour la massification de la collecte de ce qu'on appelle les mégadonnées, ou big data en anglais, et une fascination pour les facultés prédictives, soi-disant, des algorithmes. Mais tout le problème, c'est qu'on sait très bien que les algorithmes et les big data, c'est un construit social, ce n'est pas le fruit d'une divinité technologique, et comme tout construit social, c'est le résultat d'un choix. Aujourd'hui, on ne sait pas qui pourra contrôler la configuration de ces algorithmes et le type de données collectées. C'est là le cœur du problème.
Alors, nous aurons plusieurs témoignages dans cette émission, mais nous avons voulu notamment connaître l'avis de certains magistrats, certains sont vent debout, d'autres plus mesurés. Amélie Perrot a rencontré Virginie Duval, qui est présidente de l'Union syndicale des magistrats, qui n'est pas totalement vent debout contre cette loi, mais tout de même qui en note les limites, et notamment son champ d'application trop large. Virginie Duval au micro d'Amélie Perrot.
Le Conseil constitutionnel est clair, on peut porter atteinte aux libertés individuelles de manière proportionnée en fonction des intérêts qu'on cherche à défendre. Donc on peut porter atteinte aux libertés individuelles avec les techniques de renseignement. La difficulté pour nous, c'est que le domaine d'intervention de cette loi est trop large, plus large que ce qui existe déjà actuellement avec la loi de 91. On a le sentiment que le projet de loi essaye de contourner la jurisprudence claire qui a été mise en place par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS. Le texte tel qu'il était rédigé permet, par exemple, d'entrer chez un délégué syndical, par exemple, et de mettre des micros chez lui pour savoir comment ça va se passer. Alors, forcément, les services de renseignement vont nous dire on a autre chose à faire. La loi, elle le permet. Donc, si les services de renseignement ont autre chose à faire, eh bien, pourquoi le mettre dans la loi ?
Et pour Virginie Duval, donc présidente de l'Union syndicale des magistrats, il y a la question du juge qui, pour elle, est primordiale et dont elle trouve qu'il est le grand absent de cette loi sur le renseignement. Virginie Duval, au micro d'Amélie Perrot.
Ah ben, la place du juge, c'est clair, il n'y en a pas. Le juge judiciaire n'est pas du tout présent dans ce projet de loi. Alors, ce qui fait qu'on aboutit à un paradoxe, c'est-à-dire que toutes les des interceptions de sécurité, tout ce qui concerne les écoutes, la géolocalisation en matière judiciaire est extrêmement encadré avec un contrôle du procureur, du juge d'instruction et surtout du juge des libertés et de la détention avec des délais très contraints. Et là, puisque le judiciaire n'est pas encore saisi, les interceptions et les techniques de renseignement pourront être mises en œuvre sans ce contrôle et avec un contrôle bien moins fort. On sait actuellement que la CNCIS a des personnels et que des magistrats de l'ordre judiciaire composent ce personnel de la CNCIS. Donc il faut prévoir que des magistrats de l'ordre judiciaire composent la CNCTR au quotidien.
Voilà un des aspects notamment de cette loi, de ces manques éventuels qui font beaucoup de débats, et débats que vous introduirez comme chaque jour à 8h15, Brice Couturier.
Mais je voudrais revenir sur cette affaire de l'extension excessive du domaine couvert par cette loi, simplement en citant le Premier ministre Manuel Valls qui a dit, pour la justifier, « Nous devons aussi nous protéger contre l'espionnage, le pillage industriel, la criminalité organisée, la prolifération des armes de destruction massive. Ça fait beaucoup. Peut-on compter sur le Parlement pour cantonner ce projet de loi à sa visée initiale, qui était simplement de donner à l'État les moyens de lutter contre un ennemi qui maîtrise de mieux en mieux les technologies numériques, comme on en a eu la preuve avec le piratage de TV5 Monde la semaine dernière. »
Ah ben voilà, et vous voyez, on va aller au journal, pardonnez-moi Amélie, hein, mais il y a Louison qui
Louison
a frappé.
Merci, merci.
Le dessin de Louison qui arrive, décrivez-nous votre dessin.
Alors,
Louison.
Alors, je pars du début de la loi du projet renseignement, est-ce qu'on n'est pas écouté depuis le départ? Et donc j'ai fait un petit fœtus dans le ventre de sa mère qui écoute et qui dit tiens, elle a encore envie de fraises.
Voilà, et il part tout de suite sur votre compte Twitter des matins et la page bien sûr des matins, franceculture.fr. Vous écoutez France Culture et vous n'avez pas tort, il est toujours 8h.